Vous écoutez RTL.
RTL, il est 18h.
RTL Soir, Marc-Olivier Faugiel.
Bonsoir, heureux de vous retrouver pour 2 heures d'infos et à la une.
Aussi j'ai décidé, après m'être entretenu avec les présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat, de clore le débat constitutionnel.
François Hollande enterre donc la révision constitutionnelle, exit donc la très controversée déchéance de nationalité. Tout ça pour ça, 4 mois de vif débat. Une gauche qui se déchire, la droite qui en profite, Christiane Taubira qui claque la porte du gouvernement pour finalement donc ne rien changer. L'exécutif rejette la faute sur la droite. Jean-Christophe Cambadélis s'excuse même auprès des Français, vous allez l'entendre. Dans RTL Soir, vous entendrez les uns et les autres. À 18h20, celui qui organise la primaire à droite répondra aux critiques de Manuel Valls. Et à 18h30, on va prendre de la hauteur avec le décryptage d'Alain Duhamel.
Le 18h, Isabelle Choquet.
RTL Soir.
Bonsoir Isabelle.
Bonsoir Marc-Olivier, bonsoir à tous.
Les autres titres de l'actualité.
Une perquisition ce matin à l'évêché de Lyon, dans les locaux du cardinal Barbarin, mis en cause pour non-dénonciation d'agression pédophile. Nous serons sur place dans un instant. La révision constitutionnelle enterrée et la loi travail contestée. Nouvelle journée de grève et de manifestation demain. Ce sera très compliqué dans les transports et pas facile non plus pour les parents qui ont des petits à l'école. Des syndicats heureux, ça existe. Dans une entreprise de l'Oise, le patron verse une prime de 1 500 € à tous les salariés. À suivre également, la cerise française en danger. Paris vient d'interdire un insecticide autorisé partout ailleurs en Europe. Et puis, un SMS qui coûte cher. Un jeune homme vient d'être condamné à de la prison ferme pour une émoticône, un petit dessin, mais un petit dessin de pistolet. La Bourse de Paris, elle clôture en hausse d'1,78% à 4444 points. Les courses à Marseille-Borély, il fallait jouer le 6, le 13, le 10, le 12 et le 5.
Et à la fin du journal, la question qui vous permet de comprendre l'actualité, porte close pour éviter les dérapages. 28 lycées parisiens ont décidé de fermer demain, jour de grève. Mais est-ce que c'est légal? Qui décide? Puis direction les coulisses de l'actualité, Maje et Sandro, la fabuleuse histoire de deux sœurs qui valent ce soir 1,4 milliard d'euros. On vous amène en coulisses du Sentier à Pékin dans les petits secrets de la vente de leurs deux marques aux Chinois. À 18h35, document RTL, les premiers mots de Florence Hartmann, libre pour avoir fait son travail en révélant des informations confidentielles sur le massacre de Srebrenica. Cet ex-journaliste a passé 6 jours derrière les barreaux. Barreau du tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie qu'elle mettait en cause. Florence Hartmann se confie ce soir sur RTL. 18h50, Laurent Gérard. Après 19h, évidemment, on refera le monde. Bonsoir, Valérie Quintin.
Bonsoir.
Des pluies, de la fraîcheur demain.
Oui, une nouvelle dégradation, des pluies assez soutenues d'ailleurs depuis le Nord-Pas-de-Calais et les Ardennes jusqu'aux Pyrénées avec de la neige à 800 mètres seulement en montagne. Quelques éclaircies tout de même de part et d'autre. Pas mal de soleil d'ailleurs en PACA, en Corse, mais aussi en Bretagne après les pluies de la matinée. Et puis à noter un coup de vent assez sérieux dans la vallée du Rhône, en PACA et en Languedoc-Roussillon. Reste les températures 10 à 12 degrés au meilleur de la journée d'une façon générale. De la douceur uniquement dans l'Est avec 15 à 24 degrés de l'Alsace à la Corse.
À tout à l'heure Valérie.
RTL Soir.
Isabelle, tout d'abord, direction Lyon, où l'évêché a été perquisitionné ce matin dans le cadre de l'affaire Barbarin.
Le cardinal Barbarin et d'autres responsables du diocèse font l'objet d'une enquête pour non-dénonciation d'agression sexuelle. Plusieurs victimes ont porté plainte. Elles affirment que l'archevêque de Lyon a couvert les agissements du père Bernard Prena, mis en examen fin janvier pour des agressions pédophiles commises il y a plus de 25 ans. Frédéric Perruche, vous êtes à l'évêché pour RTL.
Oui, une perquisition qui a duré 3 petites heures ce matin, effectuée par les hommes de la PJ de Lyon dans les bureaux de l'archevêque, mais en l'absence de Mgr Barbarin, une opération paisible, très correcte au dire du diocèse. Les enquêteurs ont saisi des documents, probablement du matériel informatique. Après les auditions des victimes qui ont porté plainte pour non-dénonciation d'agression sexuelle, ils cherchent à avoir des écrits, tracer la chronologie de ce que savait l'Église avec certitude sur le père Prena, ce prêtre pédophile. Et depuis quelle date Mgr Barbarin évoque 2007 à vérifier et conforter. En tout cas, pour Bernard Virieux, une ancienne victime du père Prena, cette perquisition est loin d'être anecdotique.
Alors c'est sûr qu'à ma connaissance, il n'y a pas eu 36 jusqu'à présent perquisitions au sein des évêchés ou archevêchés. Ce n'est pas uniquement symbolique, hein. C'est un acte de procédure qui me paraît particulièrement important et c'est une étape de plus dans la progression vers la vérité, tout simplement. C'est loin d'être anodin que la justice puisse débarquer au sein d'un diocèse chez un cardinal, ça montre la volonté ferme de la justice de faire toute la vérité et de s'en donner les moyens.
La prochaine étape devrait être l'audition de Mgr Barbarin. C'est même son avocat qui la souhaite car il n'a rien à cacher, selon Maître Soulier, qui martèle que le cardinal tient à coopérer en toute transparence avec la justice.
À l'archevêché de Lyon, donc pour RTL, Frédéric Perruche.
Reda Cricket a été mis en examen cet après-midi. Ce djihadiste soupçonné d'avoir préparé un projet d'attentat en France est poursuivi notamment pour association de malfaiteurs en lien avec une entreprise terroriste.
Tout ça pour ça donc, après 4 mois de débats et d'hésitation, la révision constitutionnelle est purement et simplement enterrée ce soir.
Oui, une révision qui prévoyait de constitutionnaliser l'état d'urgence, mais aussi la déchéance de nationalité pour les terroristes, nationaux, binationaux, apatrides ou pas. Après 4 mois de polémique, l'Union nationale post-attentat n'existe plus, la majorité est déchirée et une ministre a démissionné, Christiane Taubira. François Hollande en tire les conséquences.
Je constate aujourd'hui que l'Assemblée nationale et le Sénat ne sont pas parvenus à se mettre d'accord sur un même texte et qu'un compromis paraît même hors d'atteinte sur la définition de la déchéance de nationalité pour les terroristes. Je constate aussi qu'une partie de l'opposition est hostile à toute révision constitutionnelle. Aussi, j'ai décidé, après m'être entretenu avec les présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat, de clore le débat constitutionnel.
Constat d'échec douloureux du chef de l'État et excuse tout à fait inédite du premier secrétaire du PS, Jean-Christophe Cambadélis.
Nous présentons nos excuses aux Français. Nous n'avons pas convaincu la droite en général et la droite sénatoriale en particulier de rentrer dans l'Union nationale pour renforcer notre droit dans la lutte contre le terrorisme. Les Français ne peuvent qu'être consternés par ce triste spectacle d'une représentation parlementaire incapable de faire la paix, même pour combattre efficacement le terrorisme. L'Union nationale contre le terrorisme est un devoir sacré.
À l'Assemblée, Manuel Valls a regretté amèrement que la droite sénatoriale ait refusé la main tendue de la gauche. À droite, Nicolas Sarkozy accuse François Hollande d'avoir créé les conditions de l'échec. Marine Le Pen parle d'un échec historique et quelques ténors du FN appellent même à la démission du chef de l'État.
À 18h20, invité d'RTL Soir, celui qui organise la primaire à droite, Thierry Soler. Et demain, invité exceptionnel de RTL Matin, le Premier ministre qui répondra à Olivier Mazerolle. De 7h40 à 8h, il sera rejoint d'ailleurs par François Langlais pour lui parler de cette deuxième journée de mobilisation contre la loi El Khomri.
Voilà qui risque de plomber encore plus un président en perdition dans les sondages. Selon une enquête Ipsos pour Le Monde, François Hollande perd 4 points d'intention de vote, que ce soit face à Alain Juppé ou Nicolas Sarkozy. Il plafonne à 14%, sachant que Jean-Luc Mélenchon atteint 10 ou 11% dans l'hypothèse évidemment d'un premier tour de la présidentielle.
Demain, ce sera donc une nouvelle journée agitée pour le gouvernement, nouvelle journée de mobilisation contre la réforme du travail.
Appel à la grève et à la manifestation dans toute la France et grève notamment dans les transports. On attend de grosses difficultés sur les trains régionaux, le RER et les trains de banlieue en région parisienne. Et puis les services publics seront perturbés aussi, par exemple les écoles, il n'y aura pas classe partout. Et pour les parents d'élèves, ça demande un peu d'organisation, Anne Le Hénaff.
Et la solution pour beaucoup d'entretiens en 2 syllabes, nounou.
J'ai 2 enfants, 5 ans et 8 ans.
Leurs profs sont en grève demain ?
Oui, ils sont en grève demain. Bah, j'ai demandé à ma nourrice de les garder, qui habituellement ne les garde pas le jeudi. C'était pas gagné, mais bon, elle était libre. Je m'en sors bien, oui.
Du coup, ça fait des heures sup pour ces nounous comme Sandra qui va exceptionnellement s'occuper d'Arthur demain midi.
Moi, ils ont la chance qu'ils ont une nounou qui est disponible tout le temps, quoi. Et bah là, du coup, demain, je dois venir le chercher à 11h30, préparer à manger et le ramener à l'école à 13h20.
Car c'est l'heure de la cantine qui pose problème à beaucoup de parents demain. Certains vont donc faire appel aux grands-mères.
J'ai vu annoncer qu'il y avait 4 personnes sur 11 pour garder la cantine, donc je prends ma petite fille avec moi.
Voilà, vous sauvez un peu les parents, là ?
Oui, un peu. Je sauve la mise. Heureusement, Granny est là.
Vous en récupérez pas d'autres ?
Pour l'instant, non. Peut-être que demain, on m'en confiera d'autres.
On allait savoir si ça se trouve. C'est toute ta classe de maternelle que Marie-Françoise devra nourrir demain midi.
Reportage RTL d'Anne Lehnaf.
Dans l'affaire Cahuzac, la Cour de cassation passe la main au Conseil constitutionnel. C'est lui qui devra trancher la question soulevée par la défense de l'ancien ministre du Budget. Elle conteste le cumul des sanctions pénales et fiscales.
RTL Soir, Marc-Olivier Faugiel.
Et pour la suite du journal avec Isabelle Choquet, il est 18h10.
Y aura-t-il des cerises ce printemps ? La question se pose, puisque peut-être un peu moins que d'habitude, en cause l'interdiction d'un insecticide.
Ça s'appelle le diméthoate. Ça sert à combattre un moucheron qui fait des ravages dans les vergers. Mais l'Agence nationale de sécurité sanitaire estime qu'il peut être dangereux pour la santé. La France a donc décidé de l'interdire. Le ministre de l'Agriculture, Stéphane Le Foll, a saisi la Commission européenne pour obtenir une sorte d'embargo sur les cerises venues de l'étranger, car ailleurs, cet insecticide est autorisé. Étienne Baudu, vous avez rencontré des producteurs du Vaucluse. Ils réclament tout juste un peu de temps.
Oui, et Jean-Christophe Néron, producteur à Malemort du Comtat au pied du Mont Ventoux, ne comprend pas la décision du ministère. Ses cerisiers sont en fleurs, la production s'annonce bonne après des années en demi-teinte. Mais le moucheron Drosophile Suzuki, arrivé du Japon il y a maintenant 5 ans et qui fait des ravages dans les vergers, est lui toujours là. Il ne faut donc pas interdire maintenant le seul insecticide efficace, le fameux diméthoate.
Le diméthoate est à ce jour la seule molécule qui soit reconnue efficace pour lutter contre la mouche Drosophile Suzuki. Nous, ce qu'on demande, c'est l'utilisation par le ministre de l'article R53 qui lui permet de nous autoriser la matière active de manière provisoire pour une durée de 120 jours, c'est-à-dire qui couvre la campagne de cerises sur le territoire, dans la mesure où les autres pays européens utilisent la même démarche que nous.
Il faut faire vite car les premiers traitements arrivent ici dans le Vaucluse dans 3 semaines environ, juste après la floraison. Jean-Christophe qui préconise que les recherches pour un produit de remplacement soit accéléré, qu'il ne faut pas tomber dans un principe de précaution à outrance, car les proches voisins, l'Espagne et l'Italie, pour ne citer qu'eux, sont déjà dans les starting blocks, prêts à importer en France leurs produits, y compris traités.
Dans le Vaucluse pour RTL, donc Étienne Baudu. On entend trop souvent parler de patrons voyous, et bien il y a parfois des patrons généreux, la preuve.
Oui, belle histoire dans l'Oise. L'entreprise Saverglass, spécialisée dans la fabrication de bouteilles de luxe, a été rachetée il y a 2 semaines par Carlyle, un fonds d'investissement. Il y a eu une plus-value, une belle plus-value, et le PDG a donc décidé de verser une prime de 1500 euros à chacun des salariés. Les syndicats applaudissent. Le délégué CFDT Arnaud Rascol n'en revient pas.
Nous allons avoir 2600 collaborateurs qui vont recevoir une prime de 1500 euros bruts qu'ils pourront, s'ils le souhaitent, les placer dans un plan épargne groupe pour permettre d'atteindre une valeur de 2000 euros. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a peu d'entreprises qui récompensent aujourd'hui ses salariés et nous avons un profond respect pour notre PDG, M. Loïc Quentin de Gromain. Peu d'entreprises valorisent comme ça les collaborateurs de la société. Donc c'est vrai que c'est quelque chose d'extraordinaire. Nous avons de bonnes relations. De très bonnes relations.
Ce délégué donc CFDT au micro-RTL de Célia Semama.
La polémique sur le salaire de Carlos Tavares. La rémunération du patron de PSA a quasiment doublé en un an, mais il se défend. Ce n'est pas Carlos Tavares qui fixe le salaire de Carlos Tavares, c'est le conseil de surveillance de PSA. Une claque pour le CSA. La chaîne numéro 23 va finalement continuer à émettre. Son autorisation lui avait été retirée par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, mais la décision a été annulée par le Conseil d'État.
Allez, on en vient à cette condamnation. Pas banal, Isabelle, une condamnation à 3 mois ferme à cause d'une émoticône.
Oui, une émoticône, vous savez, ces petits dessins qu'on ajoute dans ses mails, ses courriels ou ses SMS pour exprimer ses émotions. En l'occurrence, Guillaume Chiez, il s'agissait d'un pistolet et ça coûte cher à l'expéditeur.
Oui, très cher, puisque le jeune homme qui envoyait cette émoticône a écopé d'une peine de 3 mois de prison ferme et 1000 euros de dommages et intérêts. L'adolescente qui a reçu le texto explique qu'elle s'est sentie menacée, harcelée par son ex-petite amie. Elle décrit un contexte de rupture très conflictuel. Le tribunal correctionnel a estimé de son côté que l'émoticône d'un pistolet constituait une menace de mort matérialisée par une image. Ce n'est pas du tout l'avis de maître Sylvia Lagarde, l'avocate du jeune homme qui a été condamné.
Il était insatisfait du fait qu'elle l'ait envoyé paître, parce qu'il voulait avoir des nouvelles d'elle. Le simple fait que ce soit un pistolet n'induit pas qu'il y a menace de mort. Ça peut simplement vouloir dire « je suis pas content ». Et il y a plein de gens qui envoient des SMS avec des émoticônes qui symbolisent leur mécontentement. Et bien ce jour-là, M. Azougag a décidé d'envoyer un pistolet, voilà tout.
Il faut croire que cet argument n'a pas convaincu le président du tribunal qui a condamné le jeune homme, une première en France. Contrairement aux États-Unis où les poursuites sont plus fréquentes, le mois dernier par exemple, une jeune fille de 12 ans était poursuivie pour avoir posté sur les réseaux sociaux l'image de son école, accompagnée des émoticônes d'un couteau, d'une bombe et d'un pistolet.
Merci Guillaume Chiez.
Et pour terminer, un rendez-vous à ne pas manquer, best-of des grosses têtes de main en hommage à Jean-Pierre Coff qui vient de disparaître à l'âge de 78 ans. Il était bien sûr l'un des sociétaires assidus de l'émission.
Demain, best-of. Coff d'ailleurs.
Vous écoutez RTL.